VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 18 février 2019. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En RDC, rencontre hier à Kinshasa entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Parmi les sujets abordés, la formation d'une coalition gouvernementale.
Au Nigeria, les combats entre l'armée et les djihadistes de Boko Haram ont coûté la vie à d'autres civils dans le nord-est.
Des milliers de Libyens ont célébré hier le 8e anniversaire de la révolution qui a mis fin au régime de Muammar Kadhafi.
Syrie, le président américain Donald Trump exhorte les Européens à reprendre leurs combattants capturés alors qu'ils se battaient aux côtés du groupe État islamique.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, premier tête-à-tête hier à Kinshasa entre le nouveau président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Les deux leaders ont échangé pendant plusieurs heures alors que la RDC attend la nomination d'un premier ministre qui sera issu de la majorité parlementaire que détiennent les partisans de M. Kabila. Le point avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Rien n'a officiellement filtré de ces 4 heures d'entretien entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Mais de nombreuses sources renseignent que les deux personnalités ont notamment discuté, d'abord en tête à tête, puis avec leurs collaborateurs respectifs, de la nomination prochaine d'un premier ministre et de la composition du futur gouvernement. Ces discussions étaient précédées d'un repas qu'ils ont pris ensemble. Il s'agit de la première rencontre officielle entre le président de la République Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila depuis leur remise et reprise le 25 janvier dernier. Félix Tshisekedi doit dans les prochains jours nommer un premier ministre issu de la majorité parlementaire qui est sous l'autorité de Joseph Kabila. Les deux personnalités vont vraisemblablement cheminer ensemble durant ce quinquennat à travers une coalition de leurs forces politiques respectives. Pendant ce temps, Martin Fayulu, qui conteste toujours l'élection de Félix Tshisekedi et réclame la vérité des urnes, est en tournée à l'est de la RDC. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
L'armée allemande a annoncé hier qu'un soldat malien a été grièvement blessé samedi dans un échange de tirs nocturnes avec des soldats allemands présents au Mali dans le cadre de la mission de l'ONU, la MINUSMA. L'échange de tirs est le résultat d'une méprise et a eu lieu alors que les soldats allemands revenaient d'une mission de récupération d'un transport de troupes à 50 km de leur base à Gao.
Au Nigeria, 5 civils ont été tués dans des combats entre les forces gouvernementales et le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est, ont annoncé dimanche des habitants et des membres d'une milice. Des détails avec Bagassi Koura.
Les civils ont été tués samedi dans la ville de Bouniyadi, dans l'état de Yobe, au cours d'une attaque au cours de laquelle 5 djihadistes et 4 soldats ont été tués selon l'armée. À peu près au même moment, des attaques ont été lancées contre des positions militaires à Gajibo et à Gayogana, au nord de Maïdougouri, capitale de l'état de Borno, selon des sources sécuritaires dans la ville. Un habitant de Bouniyadi a déclaré que des combats avaient duré plus de 2 heures. Un projectile a touché une maison proche, tuant les 5 occupants qui s'y trouvaient. 11 personnes ont aussi été blessées par des balles perdues et des shrapnels, selon ce témoin. Un membre de la milice civile qui collabore avec les forces gouvernementales a confirmé ces informations, précisant que les membres de Boko Haram avaient été tués après cette attaque. La base de Bouniyadi, située près de la frontière avec l'état de Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste, avait déjà été visée par une attaque islamiste en janvier, lorsque 4 soldats avaient été tués. Les combattants de Boko Haram avaient été repoussés après l'intervention d'un soutien aérien.
Des milliers de Libyens ont célébré hier le 8e anniversaire de la révolution qui a mis fin en 2011 à 42 ans de pouvoir de Muammar al-Kadhafi. Eric Manirakiza.
À Tripoli, sur la place des martyrs, jadis appelée place verte, où Kadhafi aimait prononcer ses discours, des milliers de Libyens se sont rassemblés arborant le drapeau national rouge, vert et noir. Au programme, feux d'artifice, chansons diffusées via des haut-parleurs et concerts de musique et chants traditionnels. à Benghazi, deuxième ville libyenne, berceau de la révolution, les célébrations ont été plus timides, selon l'AFP. Seulement quelques dizaines de personnes se sont rassemblées près du tribunal de Benghazi où avaient commencé les premières manifestations anti-Kadhafi en 2011. Ce lieu, devenu symbole de la révolution, est aujourd'hui en ruine, portant les séquelles de la guerre contre les groupes djihadistes lancée en 2014. Depuis 2011, le pays est déchiré par des luttes d'influence entre les nombreuses milices et tribus pour contrôler les ressources du pays. Sur le plan politique, deux autorités se disputent le pouvoir. Le gouvernement d'union nationale GENA, établi fin 2015 par un accord parrainé par l'ONU, est basé à Tripoli, tandis qu'une autorité rivale s'est installée dans l'Est, contrôlée par l'armée nationale libyenne ANL, autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftar.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Maison-Blanche a défendu hier la décision du président Donald Trump de déclarer une urgence nationale pour pouvoir financer le mur qu'il veut construire à la frontière avec le Mexique pour lutter contre l'immigration illégale, bien qu'il ait lui-même dit qu'il n'avait pas besoin de le faire maintenant. Son conseiller Stephen Miller a dit à Fox News hier que M. Trump aurait pu choisir d'ignorer la crise, mais a choisi d'agir. Il a attaqué l'ancien président George W. Bush, l'accusant, je cite, de trahison étonnante il y a près de deux décennies, alors que quatre fois plus de migrants entraient illégalement dans le pays. Stephen Miller a soutenu qu'on ne peut concevoir de nation forte sans frontières sûres et que le président Trump, citation encore, défend nos propres frontières. Et le conseiller présidentiel de qualifier l'immigration clandestine de menace à notre pays. Fin de citation. Monsieur Trump a décrété l'urgence nationale quand le Congrès lui a donné bien moins que la somme qu'il voulait pour son mur.
Les ministres des Affaires étrangères européens discutent de la Syrie ce lundi, au lendemain de l'appel du président américain Donald Trump à reprendre plus de 800 combattants djihadistes venus de leur pays et qui ont été capturés en Syrie afin de les traduire en justice. Le soi-disant califat de ce groupe devrait rendre prochainement son dernier souffle dans le réduit de Baghouz dans l'Est. Ils sont français, allemands, irlandais, italiens, britanniques ou encore canadiens. Ces dernières années, des centaines d'étrangers ont été arrêtés par l'Alliance arabo-kurde des forces démocratiques syriennes, les FDS, au fil des batailles menées contre les djihadistes en Syrie.
Le gouvernement yéménite et les rebelles houthis sont parvenus à un accord sur la première phase du redéploiement de combattants hors de Hodeïda, ont annoncé dimanche les Nations Unies dans un communiqué. Les premiers retraits de combattants de la ville portuaire auraient dû intervenir deux semaines après l'entrée en vigueur le 18 décembre d'une trêve conclue en Suède. Si cette dernière est globalement respectée, selon l'ONU, des retards ont été pris dans le redéploiement des combattants comme dans un échange de prisonniers. Hodeïda, port stratégique sur la mer Rouge, est le point d'entrée de l'essentiel des importations et de l'aide humanitaire internationale au Yémen.
Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman est arrivé hier au Pakistan, première étape d'une tournée asiatique qui le conduira aussi en Inde et en Chine. Il espère à cette occasion de juteux contrats et la démonstration qu'il demeure un acteur clé sur la scène diplomatique, 5 mois après l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, féroce critique du prince héritier, dans l'enceinte du consulat de son pays à Istanbul, en Turquie. Le prince a été accueilli avec les honneurs à sa descente d'avion à Islamabad par le premier ministre Imran Khan. Sa visite intervient dans un contexte régional très tendu, marqué par des frictions entre le Pakistan d'une part et l'Inde et l'Iran voisins de l'autre. Ces deux pays accusent Islamabad de soutien à des groupes insurgés impliqués dans de sanglants attentats suicides commis cette semaine sur leur territoire. Accusation qualifiée hier par le Pakistan d'affirmation absurde.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Togo veut lancer d'ici fin août 2019 l'appel d'offres pour la privatisation de l'Union togolaise de banque, troisième actif du secteur bancaire. C'est l'un des engagements que vient de prendre Lomé dans son mémorandum des politiques économiques et financières convenu avec le FMI. Selon des informations relayées par Ecofin, les autorités togolaises vont recruter un cabinet d'audit pour évaluer la valeur économique de cette banque. Le gouvernement espère aussi obtenir l'approbation de la Commission commission bancaire de l'IOMOA, devenue très exigeante en matière de fusion-acquisition dans l'espace. L'Ouganda prévoit de commencer à pomper du pétrole brut d'ici 2022 au plus tard à partir de champs situés dans l'ouest du pays, près de sa frontière avec la RDC. Cela pourrait aider à améliorer la croissance économique de ce pays qui pourrait atteindre, selon le FMI, 7% au cours des 5 prochaines années si les investissements dans les infrastructures et le secteur pétrolier se déroulent comme prévu et que le crédit du secteur privé reste favorable. Pour finir, la Tunisie espère attirer 9 millions de touristes cette année après un bond de 37% en 2018. Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed estime que son pays a besoin de consolider son développement économique pour répondre aux aspirations de la population en matière de création de richesses et d'emplois.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatin. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec la CAN des moins de 20 ans, le Mali remporte son premier trophée face au Sénégal en finale.
Oui, dans une rencontre aux allures du derby, les Aiglons ont attendu les tirs au but pour venir à bout d'un Sénégal qui s'incline pour la troisième fois de suite en finale. L'entraîneur du Mali, Mamoudou Kané, dit Moulé, s'est réjoui de la prestation de ses joueurs. Il est au micro de notre envoyé spécial à Niamey, Siaka Traoré.
Le départ a été très difficile. Il fallait croire, il fallait insister, il fallait motiver les jeunes pour qu'ils puissent croire qu'on peut continuer. Dieu merci. Ça a été très difficile quand même. Il faut reconnaître que le Sénégal, c'est une grande équipe. Bravo aux joueurs. La clé du match était l'engagement. C'est une finale, il faut la jouer, il faut tout donner pour gagner. Donc c'est ce qu'on a fait. Nous, on a déjà oublié à forcer, ils ont forcé. Et finalement, là, ils ne pouvaient plus. Ils voulaient aller au tir au but. Dieu merci, nous aussi, on avait préparé cette séance.
Côté sénégalais, déçu de cette défaite, Youssouf Dabo, l'entraîneur des Lyonceaux, félicite tout de même ses joueurs.
Je veux dire merci à mon collègue parce que s'il place mon équipe au-dessus de la sienne, je dis merci. Parce que moi, ce que j'ai dit aux joueurs, c'est vous êtes en formation encore une fois. Le plus important, c'est de gagner le respect de tout le monde. Parce que quand on fait un travail, il ne faut jamais accepter que les gens vous manquent de respect. Dans le contenu, on a fait tout ce qu'on devait faire. Maintenant, après, on est parti au tir au but, on perd sur un coup de dé. Après, félicitations au Mali. Parce que je pense que après le premier match, quand on les avait battus, en conférence de presse, j'avais dit que c'est une équipe qui peut aller jusqu'au bout.
Tunisie, la Supercoupe nationale aura lieu dimanche prochain à Doha au Qatar.
Et ce sera entre l'Espérance de Tunis, champion en titre, et le club africain vainqueur de la Coupe nationale. Une réunion a d'ailleurs eu lieu hier en présence du président de la Fédération tunisienne de football, Wadi Al-Jari, et des représentants des deux clubs. La rencontre sera dirigée par un arbitre tunisien, en l'occurrence Youssef Srari. Il faut dire que le vainqueur encaissera 100 000 dollars et 75 000 pour l'équipe vaincue.
Pour rester en Tunisie, un match en retard comptant pour la 14e journée de la Ligue 1 a eu lieu hier.
Exactement, et l'Étoile du Sahel s'est imposée 2-0 sur le terrain de la Jeunesse Sportive Caroanaise. Les étoilés confortent ainsi leur 4e place au classement à 6 points du leader l'Espérance de Tunis. Au Maroc, le Wydad de Casablanca s'est imposé 1-0 face au FUS de Rabat lors de la 17e journée de Bolota Ligue 1, leader du championnat. Les joueurs de Faouzi Benzati comptent 9 points d'avance sur Tanger. Et puis en Égypte, le Zamalek n'a pas tremblé face à UNPPI et s'est imposé 2-1 pour le compte de la 22e journée du championnat. Suite à ce succès, le club Kerot, leader, reprend 9 points d'avance sur son rival Al Ahly.
19e journée en République démocratique du Congo et Mazembe garde toujours la tête du championnat.
Grâce à sa victoire de 4-1 devant le Daring Club Motéba Pembe pour le compte de la 19e journée de la Lina Foot, les Corbeaux confortent leur première place au classement avec 52 points devant l'SV Club vainqueur 3-0 de Sangabalende. Au Bénin, les Buffs du Borgou dominent aussi la Ligue 1. Le club de Parakou vainqueur 1-0 des Dragons de Le met dans le choc de la 15e journée, compte 7 points d'avance sur l'Estonais de Boycon, accroché à Dangbo par Asvo 0-0.
Basketball ont disputé dans le groupe D la phase de poule de l'Afroligue.
Et c'est Madagascar qui a accueilli ce groupe. On connaît les deux qualifiés pour le tour final, c'est-à-dire les quarts de finale de l'ancienne formule. Il s'agit des Égyptiens de Soumoura qui ont fini premier et des Angolais de Petro Atlético. Lors de la dernière journée disputée hier, le club d'Alessandrie est venu à bout de celui de Luanda 79-79. 2022.
Signalons pour terminer, toujours en basketball, que la superstar de la NBA, LeBron James, et ses coéquipiers d'un soir ont battu l'équipe assemblée par l'ailier de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, 178 à 164 lors du All-Star Game dimanche à Charlotte, en Caroline du Nord.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Sénégal, poursuivant sa série sur les attentes des populations à quelques jours de la présidentielle du 24 février, notre correspondant Seydina Abagay s'intéresse aujourd'hui au secteur économique.
Les questions économiques sont une priorité pour les Sénégalais. C'est ce qui justifie leurs nombreuses attentes vis-à-vis du président de la République qui sera élu. C'est le cas de Lamine qui travaille dans la fonction publique. Ce père de famille dénonce la cherté de la vie et espère que ses inquiétudes vont être prises en compte par le futur chef de l'État.
Mes futures attentes, c'est que le coût de la vie vraiment soit diminué. C'est tout. C'est tout. Tout ce que les Sénégalais attendent, c'est que le coût de la vie et le coût de l'électricité soient diminués. Parce qu'aucun président jusqu'à présent n'a su vraiment régler le coût de la vie, diminuer le coût de la vie comme il faut. Bon, et nous, c'est ça qu'on attend. Hein. Bon, c'est pas les chantiers, les infrastructures, c'est bien beau, d'accord, mais surtout, nous, ce que nous voulons, c'est ça, c'est que les Sénégalais puissent vivre décemment.
Le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus est estimé à 10,8% selon le rapport de l'ANSD dénommé Enquête nationale sur l'emploi au Sénégal. Selon cette note, le chômage est légèrement plus élevé en milieu urbain où 13,8% de la population active et sans emploi contre 7,6% en zone rurale. Une situation qui interpelle Yatmanguer, livreur freelance.
Nous espérons que le président élu va résoudre l'équation du chômage qui est donc un épineux problème. Car si les jeunes sont casés, il y aura moins de violence et moins de banditisme. La jeunesse est l'avenir d'un pays. Donc l'employabilité des jeunes doit être prise en compte. C'est ma doléance.
Sous le couvert de l'anonymat, ce natif de Grand Dakar, un quartier populaire de la capitale, se plaint du coût du loyer qu'il juge élevé. Il estime également que les prix des denrées de première nécessité doivent aussi être revus à la baisse. Pour lui, cela doit être une priorité pour le président qui sera élu au soir du 24 février 2019.
La vie est chère au Sénégal, donc il faut que tout cela change. Les temps sont durs, alors il faut que le président trouve un bon conseiller en économie. Le loyer à Dakar coûte cher, les jeunes Sénégalais sont brillants mais peinent à trouver un emploi. Certains ont du mal à respecter les trois repas de la journée, donc cela doit changer.
Le Sénégal est parmi les 25 pays les plus pauvres au monde selon des données avancées par le FMI. Avec un produit intérieur brut par habitant de 934,6 $, les Sénégalais attendent de grandes réformes et un climat socio-économique apaisé pour de meilleures conditions de vie. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
En Côte d'Ivoire, les écoles sont paralysées depuis près d'un mois en raison d'un mot d'ordre de grève des enseignants. Ces derniers exigent une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. D'Abidjan, les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
L'école ivoirienne est une nouvelle fois dans la tourmente. Depuis le 22 janvier, les enseignants du public ont rangé les craies. Ils sont en grève et demandent notamment une revalorisation des indemnités de logement, la suppression des cours du mercredi dans le primaire et le relèvement des primes des examens. Paco Matabi est le porte-parole de la COSEFC, la coalition secteur éducation formation, le syndicat qui a initié cette grève.
C'est parce que nous n'avons pas eu d'interlocuteur depuis 3 ans. Depuis 3 ans, notamment le 4 novembre 2016, nous avons adressé nos correspondances à Madame le ministre pour lui demander une simple audience censée discuter de nos revendications qui font objet de palabres aujourd'hui. Elle n'a pas répondu. Le 2 novembre 2016, c'est-à-dire une année plus tard, nous l'avons relancé. Elle n'a pas répondu. On a rencontré le directeur de cabinet. Il a dit que c'est vrai qu'ils reçoivent les courriers, mais quand ils voient, ils regardent l'objet, voilà, ils jugent de l'opportunité de nous recevoir ou de ne pas nous recevoir.
Vendredi dernier, face au syndicat d'enseignants, la ministre de l'Éducation nationale, Candia Camara, a appelé au respect de la grève sociale conclue en 2017.
Je suis très attristé parce que nos pauvres enfants ne vont pas à l'école. Il a été conclu un accord de trêve sociale. Le gouvernement, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, respecte à la lettre l'engagement qu'il a pris vis-à-vis du monde du travail, vis-à-vis des enseignants.
Paco Matabi de la Cause FC.
Nous ne sommes pas concernés par cette trêve sociale. Avant la signature de la trêve sociale, le 17 août 2017, nous avions déjà donné de la voix pour dénoncer ce qui se faisait. Donc, pour nous, cette trêve sociale ne veut absolument rien dire.
Pour Babili Dembélé, président du CIDP, le Congrès ivoirien pour le développement et la paix, tout cela aurait pu être évité si le dialogue avait été privilégié.
Je pense que ce qu'il a totalement manqué aux dirigeants, le dialogue. Ceci est consécutif à plusieurs promesses faites par le pouvoir aux enseignants, aux fonctionnaires. Promesses non tenues. Encore une fois, nous interpellons l'État de Côte d'Ivoire afin qu'il prenne la responsabilité de convoquer les États généraux pour évoquer tous les problèmes de la Côte d'Ivoire, y compris le cas des enseignants, des fonctionnaires.
Près d'un mois sans cours, les grandes victimes de cette grève sont évidemment les élèves.
Fofana Nguesson Junior, je suis un élève de la première CDC Simon Neve Gbagbo. Cette grève nous pénalise parce qu'on est en retard sur le programme. Il y a les amis qui sont là. Et puis nous, on est en retard sur les autres écoles, les écoles privées, tout ça. Et nous, ça ne nous arrange pas.
Avec Soro, Kandi Modeste, cette grève nous pénalise. Si vous pouvez parler au professeur, on va répondre les cours.
Les enseignants se disent déterminés à aller jusqu'à une année blanche s'ils n'ont pas gain de cause. Georges Brahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
AFRICOM, le commandement militaire américain pour l'Afrique, démarre ce lundi l'opération Flintlock 2019. Un exercice militaire annuel conjoint entre des forces occidentales et celles de plusieurs pays d'Afrique. Lors d'un échange téléphonique avec la presse, les responsables américains ont souligné que cette année, l'accent sera mis sur le renforcement des capacités des pays du G5 Sahel. Bagassi Koura nous en dit plus.
Le pays d'accueil cette année est le Burkina Faso, qui a vu sa situation sécuritaire se détériorer de façon inquiétante ces dernières années. Plus de 2000 soldats de 34 pays africains et occidentaux vont participer à Flintlock à partir de ce lundi 18 février jusqu'au 1er mars. Le major général Marcus Hicks est le commandant des opérations spéciales d'AFRICOM.
Le Flintlock de cette année inclut 34 pays. Il y a 15 nations africaines et 19 pays occidentaux. En plus, il y a le Japon et l'Arabie Saoudite en tant qu'observateurs. Plus de 2000 participants, dont la plupart recevront une formation, soit pour les unités tactiques, soit pour le maintien de QG.
L'accent sera mis sur la formation des pays membres du G5 Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et le Burkina Faso. Le major général Marcus Hicks.
Notre objectif n'est donc pas simplement de réussir un autre exercice militaire, mais de doter les forces partenaires de réelles capacités.
Les unités chargées de la protection du quartier général du G5 Sahel, déjà détruites par les djihadistes, auront une formation spéciale. Mais la lutte contre le terrorisme n'est pas que militaire. Et les États-Unis veulent aussi soutenir le développement dans les pays africains. Andrew Yang est l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso.
Nous nous attaquons aux questions liées au développement économique, la tolérance sociale et à l'instabilité. Nous donnons les possibilités aux voix modérées. Nous sommes donc très heureux d'avoir soutenu le Burkina Faso et les autres membres du G5 Sahel. Je considère le G5 comme une institution de la région, par la région et pour la région.
La question des droits de l'homme a également été évoquée suite à des allégations d'abus qu'auraient perpétrés les forces burkinabées contre des civils. La réponse de l'ambassadeur américain Andrew Yang.
Nous prenons les allégations de violation des droits de l'homme avec beaucoup de sérieux.
Alors que la lutte contre le terrorisme dans le Sahel s'intensifie, les États-Unis espèrent que cette opération permettra d'équiper et de former les troupes du Sahel.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En République démocratique du Congo, fin ce week-end à Goma du festival Amani Upe en Swahili, au moins 36 000 personnes ont participé à cet événement désormais annuel de danse et de musique pour une paix durable dans la région des Grands Lacs. Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma, revient sur les temps forts de ce festival.
Durant trois jours, Goma a vibré au rythme de la paix. Des artistes internationaux, régionaux ainsi que des locaux ont animé les trois scènes de l'espace du Collège Mwanga de Goma. Un moment de joie et de partage pour les habitants de cette région.
Nous sommes venus pour amuser les enfants. C'est un événement qui est devenu à Goma comme un rendez-vous à ne pas manquer. Et oublier les guerres, les tueries à Beni et un peu partout les Ebola.
Chaque matin, pendant les trois jours de ces festivals, des longues files d'attente était bien visible pour avoir accès au lieu des festivités. Certains n'ont pas eu leur billet d'entrée à temps.
J'étais choquée vraiment hier parce que j'avais mon 1 dollar. J'attendais acheter un billet, mais malheureusement, j'ai manqué le billet. J'ai pas vu l'artiste que je voulais voir. Et ce n'est pas seulement pour moi seul, mais il y a aussi tant d'autres personnes.
Des stars de la musique qui sont présents. On peut citer Fally Ipupa de la RDC, Gaël Fay, natif du Burundi, qui va en France. Il y avait aussi Youssoufa, fils du célèbre chanteur congolais Feta Boulay. Il vit aussi en France et c'était sa première fois à Goma. Nous l'avons rencontré juste avant qu'il ne monte sur la scène.
J'ai une image de Goma qui était un peu erronée parce qu'une image à travers les médias qui en parle comme si c'était une zone de conflit. Bien sûr, c'est une zone de conflit, mais il y a d'autres choses aussi à voir ici, d'autres jeunesses à connaître. Tant qu'il n'y a pas le sentiment de justice, on ne peut pas avoir la paix.
Dans l'enceinte même du Collège Mwanga, autour de ces trois scènes de spectacle, de nombreux stands humanitaires, entrepreneurs ainsi que des artisans, chacun tente de passer son message. Pour les organisateurs du festival, la culture c'est aussi un moyen de transmettre la paix. Guillaume Bissimoua, directeur du festival Amani.
La paix c'est une éducation, c'est un processus. Quand on voit les artistes du Rwanda qui viennent, de l'Ouganda, de la Tanzanie, se mettre ensemble, chanter sur la scène, partager avec le public de Goma, c'est des moments forts.
Dans un contexte où la région du Kivu est confrontée à l'épidémie de la maladie à virus Ebola depuis plus de 6 mois maintenant et qui a déjà fait plus de 530 décès, le festival a servi de cadre pour une large sensibilisation, mais aussi un dispositif sanitaire a été installé sur place.
Il faut que tout le monde comprenne qu'il est acteur pour mettre fin à ce contexte Ebola. Et alors nous avons mis aussi des dispositifs de lavage des mains, des prises de température.
Durant trois jours, plus de 36 000 festivaliers ont chanté et dansé la paix à Goma pour cette 6e édition du festival Amani qui est devenu un rendez-vous annuel. Charlie Kasereka pour VOA Afrique Goma.
Derrière moi, on va célébrer. La vie est panoramique, j'y suis arrivé naïe. N'ai jamais baissé les bras, n'ai jamais fatigué. Il y a qu'assis sur le trône que je vais m'éterniser. Banaloua derrière moi, on va célébrer. Actions deviennent mémorables. Jusqu'où va l'horizon, contrôle le territoire. Aucune montagne n'est insurmontable.
Hello, hello. I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h. Temps universel sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. et les week-ends sur Onde Courte, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seludia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.